Et 18h10 à Paris. Dans une vingtaine de minutes, ce sera le débat du jour avec Romain Ouzoui. Mais pour l'instant, sur RFI, c'est Accent d'Europe avec Juliette Garban.
C'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Une semaine qui se conclut et une semaine qui était bien chargée puisque lundi nous étions avec le défi 24 heures Angers Téléthon et ça y est, c'est officiel, Sidonie va faire 160 km avec Bastien, c'est ce que tu m'as dit.
Minimum,
ouais. Le record est à 180, je crois, 190.
À battre.
Bah pourquoi pas, à pied ou en courant?
Bah un peu des deux.
Un petit peu des deux en fonction de ta fatigue. Non, ça, en tout cas, peut-être que tu participeras. Et on vous enjoint à participer à cet événement pour la solidarité et sportif. C'est un défi, tout est dans le nom. Mardi, nous étions avec les équipes du CCJC, le Centre Culturel Jean Carmet. Et on avait aussi Bertrand, notre invité un peu fantasque, en fin d'émission. Mercredi, en mode responsable et avec la jeune chambre économique d'Angers et des alentours de sa région. Et ce soir, nous sommes avec Loire-Authion, un programme très chargé puisqu'on va parler du 22 novembre avec cette journée tous citoyens, du 27 et 29 novembre avec Culture pour tous. Et ça fait plaisir, ça arrive ce week-end, non? La date doit pas être bonne, ça doit être en décembre puisqu'on m'annonce le novembre, mais non, c'est les 13 et 14 décembre, le salon des vins et du terroir. Michel sera là pour nous en parler. On aura aussi Anne Prigent et Didier Joncheret tout à l'heure pour Culture pour tous. Et je reviens dans l'autre sens, Marie-Agnès Dumur-Goulu pour tous citoyens. Voilà le programme de Topette. On aura aussi l'agenda culturel avec Suzanne et la chronique, l'édito de Mathéo en fin d'émission. C'est parti pour la dernière de la semaine.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, un petit peu d'actu avec Sidonie. J'ai l'info, l'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Nous commençons ce flash avec la nouvelle réforme des aides sociales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lors des assises des départements la création d'une allocation sociale unique regroupant plusieurs aides. RSA, prime d'activité, aide au logement, en un seul versement à date fixe. Cette idée s'inspire des expérimentations menées à l'étranger, notamment au Canada ou dans certains Länder allemands, où les aides sociales sont centralisées pour simplifier l'accès aux droits. Parmi les volontaires, le Maine-et-Loire. Sa présidente, Florence Dabin, souhaite que le département serve de territoire pilote afin de fluidifier les démarches administratives et mieux accompagner les habitants. Le Maine-et-Loire serait dans les premiers à tester cette réforme dès l'an prochain et devenir un modèle pour d'autres départements français. On quitte le terrain social pour s'intéresser à l'économie avec une entreprise angevine qui fait parler d'elle même au-delà du Maine-et-Loire. Le groupe STIF, installé à Saint-Georges-sur-Loire, annonce le 18 novembre la signature d'un contrat de 25 millions d'euros avec Tesla. L'entreprise angevine fournira des panneaux de protection anti-explosion destinés aux unités de stockage d'énergie du constructeur américain, fabriqués aux États-Unis et en Chine. Ce contrat fait directement suite à un premier accord signé en février 2024, d'un montant de 10 millions d'euros. Pour Steve, c'est la confirmation d'une relation commerciale solide. Cette croissance est portée par un marché en pleine explosion, lui aussi, celui du stockage des énergies renouvelables, devenu crucial dans le monde entier avec l'essor du solaire et de l'éolien. Dans le même registre énergétique, la métropole poursuit aussi ses propres projets. Les élus d'Angers, Loire Métropole, ont validé ce 17 novembre deux décisions majeures pour développer le réseau de chaleur de la ville. Un réseau principalement alimenté par de la biomasse et déjà utilisé par 38 000 foyers, mais dont l'ambition est de dépasser les 55 000 usagers d'ici 2027. La première décision concerne l'interconnexion des réseaux de Belbeil et des Hauts de Saint-Aubin, deux zones équipées depuis les années 2009 et 2018, mais jusqu'ici gérées séparément. La seconde met fin à une ancienne affaire avec le délégataire IDEX SAB, dont la gestion revient désormais entièrement à Alter Service, la structure publique de la métropole. Cette reprise implique des travaux lourds, notamment la remise en état de deux chaudières bois pour un montant supérieur à 2 millions d'euros. Ce réseau s'inscrit dans une longue histoire locale. Le plus ancien, celui de la Roseraie, fonctionne depuis les années 1980 et a été modernisé en 2011. Plus récemment, la chaufferie biomasse de Montplaisir, mise en service en 2023, alimente déjà plus de 2400 logements et plusieurs entreprises, dont Scania. La métropole envisage également des futurs abonnés, notamment dans la Doutre, mais aussi des structures publiques comme la prison d'Angers. Des études sont également menées pour diversifier les sources d'alimentation. Géothermie, chaleur des eaux usées, récupération de chaleur industrielle, des pistes déjà explorées dans certaines villes pionnières comme Grenoble ou Strasbourg.
J'ai l'info sur Radio G. Merci beaucoup Sidonie. Rappelez-vous, le 25 novembre, une soirée théâtre et débat est proposée à la Maison pour tous de Montplaisir par le groupe Angevin de concertation prison dans le cadre des JNP, les Journées Nationales des Prisons, pour dialoguer sur la culture en détention et la réinsertion. Rappelez-vous aussi qu'en novembre, les 28, 29 et 30 novembre à Mauges-sur-Loire, nous aurons le forum des médecines de l'âme avec des conférences, des ateliers, des rencontres pour éveiller la spiritualité de son âme. On vous conseille de vous inscrire et plus d'informations justement sur forum-âme.com. Et lundi prochain, on sera avec Gloire Beaumont pour nous parler de son concert gospel qui aura lieu le samedi 29 novembre au centre Jean Guéguin de Trélazé. Plus d'informations au 07 84 81 42 79. L'entrée est à 10 euros. Et maintenant, on parle d'entrée. Justement, on va laisser entrer tous nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Michel Lavaux. Alors pour l'instant, je te présente. Tu nous parleras tout à l'heure des salons, du salon des vins et du terroir. C'est les 13 et 14 décembre. C'est proposé par l'association Andarbrin Œnologie. C'est un marronnier de l'émission Topette, puisque tous les ans tu viens nous en parler. Avant ça, nous serons avec Anne et Didier. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier Joncheray, bénévole de l'association La Maison de la Loire en Anjou. Et bonsoir Anne.
Bonsoir.
Anne Prigent, chargée de mission auprès des publics et de l'événementiel dans cette même Maison de la Loire en Anjou. On va parler de la culture pour tous. Et avant vous, on a avec Marie-Agnès Dumur-Goulieu. Bonsoir.
Bonsoir.
La directrice de la transition écologique et participation citoyenne à Loire-Authion. On parle ensemble de la journée Tous Citoyens du 22 novembre. Un temps s'est annoncé comme un temps fort du projet citoyen. On va pouvoir en parler de ce projet citoyen du territoire de Loire-Authion avec pour thématique cette année les mobilités. Alors au quotidien, puisque ça concerne les déplacements au quotidien, on nous annonce un parcours vélo, un atelier bus, un escape game, même encore avec le vélo et des trottinettes électriques au programme. On va parler plus précisément de cette édition, mais avant tout ça, Marie-Agnès, est-ce qu'on peut redonner un petit peu de contexte sur cette journée Tous Citoyens de Loire-Authion, s'il te plaît?
Et oui, la journée Tous Citoyens, donc c'est un événement qui a été créé en début de mandat dès 2021. Les élus de Loire-Authion ont souhaité travailler avec les habitants, mais aussi les agents, à l'élaboration d'un projet citoyen de territoire qui aboutit à une trentaine d'actions, dont l'une était la création de ce temps fort, journée gratuite, ouverte à tous les publics, sur la citoyenneté. Et puis, depuis 2023, on a plus spécifiquement orienté cette journée vers des sujets de transition écologique du quotidien. Donc, par exemple, l'an dernier, à ce micro, je vous parlais plutôt de biodiversité, pardon. Et cette année, on se concentre sur les déplacements, les mobilités, tout ce qui va être l'alternative à l'autosolisme quand on prend sa voiture tout seul.
Oui, car on ne le suppose pas, hein, c'est prouvé que l'utilisation quotidienne de la voiture prend de la place, ça consomme aussi beaucoup d'énergie, ça pollue l'atmosphère. Donc on peut essayer de trouver des alternatives dans cette perspective d'avoir un comportement plus environnemental friendly, comme on pourrait dire. Si on revient juste sur la citoyenneté, Marie-Agnès, comment on pourrait définir simplement ce qu'est être citoyen, citoyenne, au sens large et à Loire-Authion plus précisément?
Alors être citoyen, c'est être impliqué, engagé. Et à Loire-Authion, on a travaillé aussi sur ces notions d'implication des habitants dans leur dans les aménagements du quotidien. Donc, on peut avoir des concertations, des réunions publiques lorsqu'il y a des projets d'aménagement ou d'urbanisme. Mais on a aussi, et ce sont des actions du projet citoyen, travaillé à la création d'un conseil municipal des enfants, par exemple, parce que plus on prend le virus petit, mieux c'est. Donc, à l'échelle de nos 7 communes déléguées, et donc 13 écoles, publiques, privées, ont des représentants dans ce conseil municipal des enfants qui, il y a 15 jours, étaient à Paris, visiter l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple. On a créé des conseils de quartier pour que les habitants puissent nous faire remonter éventuellement leurs besoins, mais aussi qu'on puisse les questionner, nous, sur des projets. Donc, on a travaillé récemment avec, par exemple, le conseil de quartier de la Boale sur l'aménagement d'un espace naturel qui est dénommé désormais l'escapade boalienne, par exemple.
La citoyenneté, s'engager pour sa collectivité, vivre ensemble aussi d'une certaine façon. Donc, cette journée tous citoyens du 22 novembre autour du thème des mobilités. Alors, Loire-Authion est à l'est de l'agglomération angevine. On suppose qu'il y a beaucoup de déplacements pondéraux qu'on appelle, c'est-à-dire qui partent de Loire-Authion le matin, qui vont sur l'agglomération angevine et qui reviennent ensuite le soir en autosolisme, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Marie-Agnès. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé et quels sont les outils qu'on va mettre en place justement au travers de l'escape game, par exemple, ou de l'atelier avec le bus pour inciter éventuellement les Loire-Authiens et Authiennes à se déplacer à vélo ou prendre les transports en commun?
Oui, alors le diagnostic, il existe hein, parce qu'il a été un peu posé en début de mandat. Après, il faut savoir que la compétence des mobilités, c'est une compétence de la communauté d'agglomération Angers-Loire Métropole. Donc, qui va par exemple être responsable de la construction des pistes cyclables, voyez, et de l'organisation des transports publics collectifs type, Irigo, le bus. Donc, nous, à la commune, on essaye d'encourager les personnes aux mobilités douces, donc la pratique du vélo, au travers de différents outils. On a notamment travaillé avec le collectif local de Place au Vélo, qui sera présent samedi, pour identifier et baliser des itinéraires empruntables de façon sécurisée en vélo, d'une commune déléguée à une autre. Parce que justement, les transports sont plutôt organisés pour aller vers Angers ou en revenir. Et nous, notre territoire, de façon verticale, il est plus ou moins bien desservi ou organisé.
Alors, les citoyens là font face à un problème au niveau des mobilités, du coup, parce que la commune ne peut pas avoir les compétences pour développer les infrastructures, et ces infrastructures sont vitales si on veut trouver une alternative à la voiture. Il faut soit une ligne de bus, il faut soit des pistes cyclables sécurisées. Du coup, est-ce que vraiment les citoyens peuvent être acteurs et actrices pour ce thème-là?
Bien sûr. Alors déjà, les élus de Loire-Authion sont représentés au conseil de communauté de l'agglomération, donc voilà, et puis ils travaillent justement à défendre les intérêts du territoire. Ils ont travaillé avec Angers-Loire Métropole sur la desserte, améliorer la desserte en bus pour les transports collectifs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande par exemple aux habitants de participer à un comité mobilité qui est annuel, qui a lieu d'ailleurs le 1er décembre prochain à 20h. Et donc là, on les invite à nous faire remonter leurs besoins. Et nous, on transmet, on appuie aussi. C'est parfois appuyé politiquement, bien sûr, pour faire évoluer les choses. Donc, un citoyen ou un habitant qui fait remonter un besoin qui s'exprime, il participe à l'amélioration, puisque cette expression de besoin, elle est entendue et elle est transmise. Voilà. Après, les aménagements sont longs, hein, une piste cyclable, voilà, c'est 6 à 7 ans de travail, j'imagine. Donc, voilà. Tout ne se fait pas en un jour.
En tout cas, voilà les thématiques, la citoyenneté, les mobilités qui sont abordées pour cette journée tous citoyens du 22 novembre. Le programme, on pourra le retrouver sur le site internet peut-être, ou alors tu voulais en toucher deux mots rapidement sur...
Ouais, je veux bien en toucher deux mots si j'ai le temps. Alors, tout est sur le site internet loire-authion.fr. Mais effectivement, on a beaucoup de... Alors, c'est une journée qui, comme tous les ans, se veut ludique, familiale. On vient apprendre, tester. Tout est gratuit. C'est de 10h à 17h à l'espace Jeanne de Laval à Andard. Et on a beaucoup de choses autour du vélo, avec effectivement un escape game, mais aussi la présence de place au vélo. Notre centre social Éclat qui... fait de la réparation vélo. On a la sécurité routière qui sera présente aussi avec des parcours trottinettes électriques et vélo. Alors bien sûr, tout ça, c'est ouvert aux enfants. On a une animation autour du voyage en 2050 organisé par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Donc c'est une sorte de sensibilisation au changement climatique autour du voyage. Et puis, on a bien sûr Irigo, partenaire présent toute la journée avec un stand où vous pouvez acheter un ticket, un abonnement, mais aussi monter à bord d'un bus démo. On aura la SNCF, parce qu'il faut pas oublier le train, qui sera présente avec une offre TER à gagner. Donc, voilà. On aura la fresque des mobilités et voilà, plein d'autres choses encore.
Oui, tous les outils sont là, on a touché toutes les mobilités, mais pas la voiture bien évidemment, puisque l'idée c'est justement de sortir de la voiture pour aller prendre un autre moyen de transport. Tu nous redonneras toutes les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission, Marie-Agnès, si tu le veux bien. On se fait une micro-pause musicale et on reste à Loire-Authion. Et cette fois-là, on était tous citoyens, maintenant on va faire de la culture pour tous. Dehors, voilà ce qu'on peut faire quand on a des choix de mobilité. C'était Jus sur Radio G à l'écoute de Topette.
Topette sur Radio G.
Et nous sommes à Loire-Authion ce soir. On parlait de la journée Tous Citoyens. Maintenant, on est en Culture pour Tous. C'est du 27 au 29 novembre. Et nous sommes avec Anne Prigent et Didier Joncheret de la Maison de la Loire en Anjou pour en parler. Rebonsoir Didier.
Rebonsoir.
Et rebonsoir Anne.
Bonsoir.
Voilà, je sais pas si vous vous déplacez à vélo, si vous avez un abonnement TER. En tout cas, on vous invite à aller le 22 novembre. Ben, ce sera en plein. D'ailleurs, non, vous pourrez pas. Vous serez à Culture pour tous, très certainement. Il faut nous expliquer de quoi ça parle. Alors, peut-être qu'on peut redonner une petite définition brève de la Maison de la Loire en Anjou, connue aussi sous le nom de Loire Odyssée. Anne, avant de commencer.
Oui, alors la Maison de la Loire en Anjou, c'est une association qui a plus de 40 ans. Met en avant le fleuve royal au travers d'un site de visite à Saint-Mathurin et d'un bateau sur la Loire. On fait beaucoup d'animations pour le grand public, mais aussi pour les scolaires. Et avec tous nos bénévoles, nous mettons en place une programmation culturelle sur toute l'année où on a des conférences, des sorties et des événements comme Culture pour tous, dont c'est la 5e édition.
Alors justement, cette programmation, ce temps fort Culture pour tous, qu'est-ce qu'il a comme marqueur différent, Didier, pour être identifié dans la programmation? Quelles sont les singularités qui vont différencier du reste de la programmation du 27 au 29 novembre, Didier?
Alors même si on y est attaché tout au long de l'année, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à développer sur ces journées-là tout ce qui peut être un obstacle à la pratique culturelle, mais on met aussi un point d'honneur à aller chercher les solutions qui permettent à des gens qui ne voient pas, à des gens qui n'entendent pas, à des gens qui ont des difficultés à comprendre, à les inviter à partager avec les acteurs de la culture. Et donc, notamment, enfin, cette année, notre édition, elle est orientée vers les difficultés d'ordre intellectuel, les difficultés d'ordre auditif et les difficultés d'ordre visuel. Bon, on va rentrer sans doute dans la programmation pour expliquer ce qu'on va faire ce jeudi, vendredi et samedi 27-28 novembre. Mais on essaye de focaliser à cette période-là sur les initiatives qu'on peut prendre ensemble.
On le fait au quotidien et là on le marque un peu plus dans la communication et notamment au travers de la programmation justement, et puis on peut en parler tout de suite Didier, Anne, sur cette programmation de 3 jours, qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer comme œuvre culturelle, que ce soit musicale, que sais-je, Didier?
Alors, en termes d'œuvre, on va avoir l'audio description d'un tableau et on va être aidé par un audio descripteur. On va également avoir la projection d'un film documentaire qui sera sous-titré. Et le débat sera également avec la présence d'une interprète en langue des signes. Et puis le samedi, le concert, il est organisé avec Sarah Robichon. Sarah Robichon est une chanteuse non-voyante.
Alors c'est un concert de quel style musical, Anne, si on peut préciser un petit peu pour ce temps plus précisément?
Alors, Sarah est venue la semaine dernière découvrir les lieux et voir l'acoustique pour savoir où chanter. Et c'était assez extraordinaire. Elle a une puissance vocale. C'est de la chanson française, de la reprise, mais également quelques compositions. Donc, on a hâte de voir ça.
Alors, la culture pour tous, on le disait, hein, c'est au quotidien, en permanence. Comment, au long de la saison, de la programmation, c'est distillé? Comment on pense sur les plaquettes, par exemple, de communication aux personnes qui ont des difficultés de différents ordres, de rendre aussi accessibles les différents temps de programmation, Anne?
Alors, sur l'accessibilité pour les personnes qui ont un handicap moteur, par exemple, tout le bâtiment est accessible, le bateau également. C'est précisé sur nos plaquettes, comme vous le disiez. Autrement, on s'adapte complètement aux demandes spécifiques. On a reçu des groupes de l'APF. On a reçu aussi des groupes de Valentin Huy, qui est l'association des personnes malvoyantes et aveugles. Et on a essayé de développer des visites sensorielles, d'expliquer mieux. Comment expliquer en étant sur le bateau ce que l'on peut voir autour quand on ne voit pas? Et bien, on a essayé de créer tout ça par le toucher, par les sons, etc. Donc on essaye de mettre ça en place. Et pour la déficience auditive, on a des QR codes avec des petites vidéos sous-titrées et interprétées en langue des signes partout dans le site de visite.
Et on va le préciser plus précisément pour Culture pour tous, c'est pas pour un public uniquement en situation de handicap de quelque ordre qu'il soit, c'est pour tous, c'est-à-dire c'est aussi une sensibilisation pour les personnes qu'on qualifiait ou qu'on qualifie encore de valides, que tout le monde n'a pas forcément accès, et c'est à double tranchant en fait l'outil pédagogique, je ne sais pas si c'est le terme, Didier.
Oui, alors
ça sensibilise.
Oui, ce qu'on essaye de faire effectivement, c'est de rendre accessible à tous, et c'est aussi de dire que la culture d'une façon générale, on peut la pratiquer même si on est empêché sur certaines choses. Je prends juste un exemple. Lorsqu'on a un public étranger qui a une difficulté à comprendre le français parce qu'il n'est pas francophone, eh bien, on peut lui mettre à disposition ce qu'on va travailler d'ailleurs et ce qu'on peut travailler avec d'autres, un livret qu'on appelle facile à lire et à comprendre. Parce que on ne maîtrise pas forcément le langage. Et je peux vous dire que la première fois, personnellement, lorsque j'ai utiliser le facile à lire et à comprendre, c'était dans une exposition d'art moderne où je ne comprenais rien. Donc j'ai pris les fiches faciles à lire et à comprendre et enfin j'ai pu comprendre les œuvres. Donc c'est faciliter les choses pour tous.
Exactement, bah, tout est dans le nom en fait, culture pour tous. Le retour des publics sur les éditions précédentes, quelles ont été les impressions des personnes qui sont venues? Est-ce que c'était des personnes du territoire ou ça concernait d'autres personnes un peu plus loin, venaient aussi pour les propositions?
Alors ça vient d'un petit peu partout. En fait, ce qui est intéressant dans cet événement-là, c'est que les gens vont venir, peut-être pas en nous connaissant, mais pour un événement en particulier, un spectacle pour enfants, un concert, et ensuite, ils découvrent notre proposition. Et comme on dit que c'est accessible à tous, mais aussi accessible financièrement, c'est gratuit. Donc, les personnes qui se disent bah, « la culture, c'est pas accessible pour moi », sont venues et nous ont dit que grâce à la gratuité, ils ne seraient pas venus sinon et ils ne nous auraient pas découverts. Donc c'est des jolis retours, les gens sont contents d'être venus. Et les retours aussi des professionnels autour de ces déficiences-là ben, nous donnent envie de continuer.
Bon, la culture est pour tout le monde et justement cet événement la rend accessible à vraiment tout le monde, que ce soit même au niveau des conditions sociales. Peut-être un dernier mot à rajouter. Tout à l'heure, on redonnera les infos pratiques, mais Didier, est-ce que tu voulais rajouter
un
mot?
Oui, rajouter qu'on travaillera sur ces journées avec deux partenaires. On travaille avec le Pont de Varennes, qui est un lieu qui accueille des personnes handicapées. Et puis, on travaille aussi avec le département, avec monsieur Julien Béconnier. Et donc, le département s'est associé à la journée de travail sur les difficultés de communication.
Julien Béconnier, qui est, il me semble, toujours président de la Croix-Rouge Angers, ou pas. En tout cas, c'était le cas.
En tout cas, il l'a au moins été.
Il l'a au moins été. Il était venu pour ça dans cette émission Topette. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Didier et Anne, bien évidemment. On va aller au Salon des Vins et du Terroir dans quelques instants avec Michel. Mais avant tout ça, puisque nous sommes en culture, on va y rester avec l'agenda culturel de Topette. Et ce soir, c'est avec Suzanne.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir à toutes et à tous. On arrive à la fin du mois de novembre. Les journées raccourcissent, il fait nuit quand on se lève, nuit quand on rentre. Pas question encore de rester sur le canapé devant les films de Noël de TF1. L'agenda que je vous ai préparé va vous donner toutes les bonnes raisons de sortir. On commence par un événement engagé et vibrant, le L Festival, E2LES, qui met à l'honneur les femmes dans la musique actuelle. Depuis déjà 10 jours, la ville vibre au rythme de concerts, débats, rencontres, installés dans des lieux variés comme le Joker's Pub, le Quai ou encore la Galerie David d'Angers. L'objectif, mettre en lumière des femmes féminines, des artistes féminines, encore trop peu représentées sur scène et donner un vrai coup de projecteur à leur créativité. Le festival se clôture ce samedi 22 novembre avec une grande nuit électro au Shabada. Une soirée qui promet ambiance festive, énergie et bonne musique. L'occasion idéale de danser et de célébrer la place des femmes dans la scène musicale. Et si vous voulez changer de rythme, un peu d'humour vous attend. Il reste encore des places pour le spectacle « Clown n'est pas un métier » de Danny Boone le 21 novembre à l'Amphithéa. Une soirée garantie de rire, de bonne humeur, avec un humoriste qu'on connaît tous et toutes. Après la musique et l'humour, place à la fête. Si je vous dis hurlement, sensation forte et gourmandise, vous me dites « la foire Saint-Martin », évidemment. Manège à sensations, attractions familiales, stand de jeux, churros, gaufres, tout est là pour s'émerveiller et se régaler. Le moment est magique pour y aller, c'est surtout à la tombée de la nuit, quand les lumières scintillent, la musique résonne et les odeurs du sucré envahissent l'air. Une sortie parfaite pour retrouver votre âme d'enfant, seul, en famille ou entre amis, pour tester des attractions ou simplement se balader. Vous avez jusqu'au 30 novembre sur la place La Rochefoucauld pour en profiter. Et pour terminer, une sortie plus calme mais immersive, le parcours interactif et si reculé m'était compté, dans le quartier de la Reculée, organisé par UrbaWiz avec le soutien de la ville d'Angers. Votre téléphone devient votre guide, vous avancez de balise en balise, résolvez des énigmes et découvrez anecdotes et récits historiques. Neuf arrêts vous plongent dans le passé du quartier, village de pêcheurs, activités nautiques, biodiversité des berges et traces industrielles. Une balade à votre rythme, ludique et relaxante, parfaite pour respirer au bord de l'eau et voir Angers sous un autre angle. Et le mieux, c'est que c'est gratuit, accessible à tous et à faire avant le 30 novembre. Alors voilà pour ma sélection culturelle de fin novembre. Il est temps de profiter, de sortir et à bientôt.
Merci beaucoup, Suzanne. En parlant de la Foire Saint-Martin, Sidonie a une très bonne expérience. T'as fait quel manège, toi, l'autre jour?
J'avoue, un peu tous, mais le banzaï était plutôt sympa.
Ouais, c'est une malade, elle aime bien les sensations fortes. Elle, il y en a qui ne montent pas dedans et elle veut aller là-bas pour ça précisément. Merci beaucoup, Suzanne. On va te laisser y aller parce qu'on parlait de mobilité en début d'émission. Bah, elle n'a plus de mobilité, son vélo est cassé. Donc voilà, il faut qu'elle marche maintenant. Donc bah, bon courage, bonne soirée. Et puis nous, on va continuer avec Loire Authion pour notre dernier sujet de l'émission.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Une voix récurrente de l'émission, c'est à peu près tout le temps la même période. Bonsoir Michel, rebonsoir Michel.
Bonsoir.
Michel Laveau, membre de l'association qui organise le Salon des vins et du terroir, l'association Andarbrun Œnologie. Le salon aura lieu les 13 et 14 novembre, les samedis... novembre, c'est parce que c'était marqué novembre sur ma feuille, c'est pour ça. Décembre, évidemment, sinon ce serait dommage, ce serait passé. C'est déjà la quatrième édition, alors plus ça va, plus ça grossit, plus il y a de... Les partenaires sont toujours là, les publics aussi, et puis j'ai l'impression que ça commence à rayonner de plus en plus. On va parler de cette édition très précisément, parce que le programme, tu l'as sous les yeux, Michel. Mais avant toute chose, d'un mot, qu'est-ce que c'est ce salon des vins et du terroir? On a voulu mettre à l'honneur un petit peu le bon goût, revenir aux choses qu'on aime ruralement, de manière pas péjorative, bien évidemment.
Oui, effectivement, le Salon des Vins, ça a été créé, comme tu l'as dit, par Andarbrun Œnologie. C'est un groupe de copains qui aime participer, qui aime la convivialité autour de cet élément. Et puis un jour, un projet fou, un projet stupide, c'est se dire, pourquoi pas nous? Pourquoi pas lancer un Salon des Vins? Alors la première année, bon, il a eu du mal à naître parce que c'est pas évident de se lancer dans ce domaine-là. Et puis d'année en année, 60% reviennent des exposants, 80%, et puis l'année dernière, les 100% reviennent. Donc ça veut dire que les exposants sont bien accrochés. Et puis maintenant, on est obligé de serrer les murs un peu parce qu'on a une liste d'attente qui est assez conséquente. Et cette année, on va faire le complet, on n'aura plus un espace libre dans l'espace Jeanne de Laval. On est 39 exposants qui viennent de toute la France, et ça c'est important, de toute la France, toutes les régions sont bien représentées, aussi bien en termes de vin que d'alcool, et puis bien sûr on n'oublie pas nos produits du terroir, qui sont aussi nombreux, et qui sont nouveaux aussi cette année, avec des nouveaux stands, les épices curieuses par exemple, on a de l'huile d'olive qui nous vient de l'Hérault, et puis on a un artisan passionné qu'on connaît bien sur le secteur, c'est les chocolats des Ponce qui sera présent pour la première année sur le salon. Donc feu vert, la convivialité avant tout, on a hâte d'y être et on bosse tous les jours pour ça.
De quoi se faire plaisir juste avant Noël ou même des petites idées cadeaux pour quand on est invité au repas de Noël et des fêtes de fin d'année. Et preuve en est qu'il faut croire en ses rêves parce que si vous étiez arrêté à la première édition, finalement, ça aurait pu ne pas voir le jour pour les éditions suivantes. Donc c'est important de continuer à croire en soi. Cette édition particulière, est-ce qu'on a une thématique? On a beaucoup d'exposants, tu l'as dit. D'ailleurs, question dans la question, je la pose maintenant sinon elle va m'échapper. L'espace Jeanne de Laval, c'est la plus grande salle sur Loire-Authion ou c'est quoi pour la suite?
Alors c'est la plus grande salle sur Loire-Authion, bien sûr. Si toutefois on devait migrer maintenant, il faudrait qu'on vise l'amphithéâtre peut-être. Mais après, ce sera un peu trop grand pour nous. Et puis on veut rester dans la norme de Loire-Authion avec cette convivialité. Ouais. Nous, notre public, c'est 80% des habitants de Loire-Authion. 20% sur les extérieurs. Donc c'est un sujet qui est intéressant au niveau de notre commune, de notre grande commune. Je crois que voler plus haut après, ça serait un peu comme Icare, ça serait se brûler les ailes. Donc restons à notre niveau. Et puis prenons du plaisir avec les amis. Alors le thème, tu parlais de thème. Bon, le thème c'est surtout la convivialité, puisque il y a ce fameux salon, mais il y a aussi l'espace convivialité, les grandes tablées. Nous, ce qu'on prône surtout, c'est venez entre amis, venez en famille, visitez le salon, et puis asseyez-vous aux grandes tables, et puis mangez des huîtres, mangez des galettes, mangez des crêpes, prenez du plaisir.
Pas en même temps, parce que galette que huîtres, ça ferait bizarre, je pense.
Mais on peut prendre les deux à la suite, il n'y a pas de souci. Ouais.
Consommer tous les biens, la joie de vivre, les plaisirs de la vie aussi dans ce salon des vins et du terroir. L'association Andarbrun Œnologie, elle fait quoi le reste de l'année en dehors?
Alors le reste de l'année, on est 80 dans l'association et on est 4 groupes à travailler avec des œnologues et on a des sessions tous les mois sur des thèmes particuliers. Hein, hier soir, par exemple, j'étais en session, on était sur les Anjou Village. Donc, beaucoup de questionnements sur les terroirs, sur les hommes, sur la pratique, sur les métiers du vin. Et puis, un point d'orgue, c'est la dégustation, bien sûr.
Ah bah oui, c'est pour ça, avec les accompagnements. Bien sûr.
Avec modération, toujours.
Est-ce qu'on a des vignes sur le Routhion?
Alors, on en avait. Même, il y a des vignes qui sont en train de renaître du côté de Mazé. J'ai vu dans la presse que des hectares de vignes avaient été plantés. À l'origine, sur Brun-sur-Lothion, il y avait un beau vignoble qui alimentait l'évêché d'Angers. Donc, pourquoi pas un jour y revenir ?
Eh bien, pourquoi pas ? On verra ça, on s'y sera informé en tout cas. Tu nous en donnes les infos pratiques dans quelques minutes, Michel, si tu le veux bien. Et puis, le dernier mot d'encouragement aussi, même si tu nous as bien donné envie d'y aller, surtout que tu nous as carrément donné des invitations, donc on n'a plus le choix. Maintenant, on va être obligé d'y aller, obligé, mais avec plaisir. On fait un détour maintenant par l'édito de Matteo et ensuite on conclut cette émission tous ensemble.
Parler de Chine, c'est devenu une évidence et pourtant tout l'abattage médiatique sur le sujet a fait omettre des choses, beaucoup de choses. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui parce que l'arrivée à Angers de Chine, ce n'est pas seulement celle d'un magasin qui vend des poupées sexuelles aux allures d'enfants, bien que cela devrait déjà être un motif d'interdiction, c'est surtout l'arrivée d'un magasin qui ne respecte aucune règle, l'un des points hyper importants à connaître et qui a peu fait la une, par un souci du détail mal placé sans doute, ce sont les conditions de travail, car c'est facile de s'imaginer l'envers du décor de la production. Mais il faut bien comprendre, avoir conscience de ce qui se trouve véritablement derrière. En juillet 2025, une enquête est publiée par les ONG Action Aid France et China Labor Watch. Dans cette dernière, on nous dépeint des conditions très dures, des heures longues, du management ultra toxique au sein des différents sous-traitants de Chine. Les femmes sont particulièrement exposées, obligées pour ne pas perdre leur travail d'emmener leur enfant sur les sites de production, dans des lieux où pullulent des machines dangereuses. Chine a aussi signalé en 2024 la présence dans ces usines de sous-traitants de travaux dissimulés réalisés par des mineurs, deux en l'occurrence. Alors des rapports bien étouffés à l'opposé du sujet suivant qui a vite été oublié mais qui a fait du bruit à l'époque. En 2020, c'est la fondation américaine Victim of Communism qui sortait un rapport sur les différents travaux forcés d'un demi-million de Ouïghours, un peuple musulman installé en Chine qui était forcé de cueillir un certain coton, le Xinjiang. Alors bien que cela a pris un an et demi, les différentes autorités et commissions occidentales ont fait le choix d'interdire tout produit contenant ce coton. C'est l'exemple, par exemple, du Uyghur Forced Labor Prevention Act aux États-Unis. Le problème, c'est que le filtrage n'est pas bon et Chine pourrait utiliser ces quelques failles pour vendre des produits illégaux. On utilise le mot risque car c'est aujourd'hui impossible de trouver des faits réels sur et ce pour trois raisons. La première, c'est que Chine n'envoie pas les vêtements. La plateforme fait juste le lien entre fournisseurs et vendeurs. La deuxième, c'est que des failles du système existent au niveau des contrôles, même si en Europe, le système équivalent aux minimes américains n'existe plus depuis 2021. C'est-à-dire qu'en théorie, tous les colis sont contrôlés et taxés. La réalité est tout autre, car les volumes sont énormes. En plus de ça, le Xinjiang représente autour de 20% du coton mondial aujourd'hui et 84% du coton chinois, couplé à une traçabilité impossible. Alors le NOUT n'est pas vraiment permis. Enfin, le troisième point, plus anecdotique, mais tout de même assez symbolique, c'est la transparence de Chine. En 2025, notamment, l'avocate générale de Chine, Yang Zhu, avait, lors d'une audition devant une commission parlementaire britannique, refusé quelques mots simples. En apparence, non, n'utilisons pas de coton du Xinjiang. De la Chine à la France, Chine s'exporte, c'est son modèle. Et un autre thème revient alors très souvent, le sujet de la concurrence déloyale, surtout en France. Alors au niveau juridique, c'est un usage excessif de sa liberté d'entreprendre dans le cadre d'une concurrence qui va à l'encontre des règles établies et donc peut créer un préjudice. Ça colle évidemment avec Chine qui possède un modèle économique fondé sur un coût de production impossible à suivre pour les acteurs français. Je vais vous donner quelques chiffres sur le monde du travail chinois pour que vous vous rendiez compte. Si on revient à l'enquête de China Labor Watch, elle fait aussi état de 75 à 100 heures de travail par semaine sans contrat avec un salaire à la pièce et quasi aucune réglementation au niveau des conditions de mise en danger de l'intégrité physique. Exemple en audio avec ce témoignage recueilli par le média Slash Enquête.
Vous confectionnez combien de vêtements par jour ?
À peu près 1000.
1000 vêtements ? Vous devez avoir beaucoup d'expérience.
Ouais, ça fait pas mal d'années que je fais ça, c'est vrai.
Le vêtement que vous êtes en train de faire, c'est pour quelle marque, vous le savez ?
C'est pour Chine. On est tous payés à la pièce.
Ah ok, mais combien par pièce? Par exemple, pour ce vêtement-là, c'est une robe?
Non, c'est un pantalon.
Shin, ils vont vous payer combien pour ce pantalon?
Environ 3 yuan.
Vous gagnez combien par mois?
Quand je travaille beaucoup, je peux gagner jusqu'à 1000 euros.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui.
Combien?
J'en ai deux.
Et est-ce que votre femme et vos enfants vivent ici avec vous?
Non, ils sont dans ma ville natale, à plus de 1000 kilomètres.
On est dans des problématiques, des situations qu'on avait déjà observées en 2021. Le fait qu'il ait laissé ses enfants, le fait qu'ils doivent trimer énormément d'heures, qu'il n'ait pas de contrat de travail, la rémunération à la pièce. C'est évident que quand tu t'achètes un top à 8 euros, il n'y a aucun monde dans lequel ce vêtement-là a été fabriqué dans de bonnes conditions au niveau social.
3 yuan ou 39 centimes pour un pantalon, c'est assez abyssal. 1000 euros, hein, c'est l'équivalent pour lui de 2500 pantalons en un mois, si on grossit les traits. Alors il n'y a pas que le coût de fabrication qui est faible, on a aussi l'absence de TVA pour Chine, car ce sont des produits pas chers qui sont envoyés dans des petits colis et qui ont le don aussi d'optimiser la logistique. Alors en France, le chiffre d'affaires de Chine s'élèverait à 1,6 milliard d'euros d'après des chiffres de BFM TV. De l'argent qui provient, selon une étude Ipsos, à 43% des 18-34 ans, une tranche d'âge dont l'influence principale sont les réseaux sociaux. La communication de Chine via ses plateformes, via l'électrochoc que c'est aussi d'apprendre que de tels prix existent, a su redéfinir le paradigme de ses acheteurs. Le média CL Press s'est rendu au BHV de Paris lors de l'ouverture du premier magasin Chine en France. Je vous laisse tendre l'oreille.
Je sais pas pourquoi c'est moins cher, j'en sais rien.
Vous avez posé des questions sur comment les vêtements étaient produits?
Bah après on m'a dit que c'était soi-disant des enfants qui... voilà, mais après...
Ça vous pose pas de problème?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et même leurs manifestations, machin, là, je m'en fiche. Voilà. Moi, du moment que la chaîne, je suis contente.
Mais il n'y a pas que chez Chaîne que les vêtements sont faits par des enfants. Il y a plein d'autres marques, même des grandes marques, qui utilisent les enfants pour faire les vêtements. Donc en fait, pourquoi Chaîne? Pourquoi cibler spécifiquement Chaîne? Il faudrait cibler toute la chaîne de la mode. Hein.
Chaîne, c'était beaucoup d'entreprises. Et dans la chaîne, peut-être, il y a des entreprises qui font des bêtises, comme partout dans le monde. Mais peut-être, il y a aussi les entreprises qui travaillent bien. Il faut savoir quelle entreprise fait ça et éviter au maximum.
Oui, bah après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je m'en fiche. Hein. Moi, de toute façon, du moment que... Voilà.
La force de chaîne, c'est le prix. Même avec toutes les taxes, ça sort vraiment moins cher.
Faut garder en tête que notre achat est toujours plus ou moins conditionné. C'est ce que Lucie Seukman appelle la théorie de l'action située. Notre environnement dirige nos comportements et de manière parfois très forte. Dans le cas de Chine, plusieurs pans de notre environnement convergent dans ce sujet. La réalité économique, la tendance de nos cercles proches, le style préconstruit aussi. Tant de choses qui nous forcent à voir du positif là où forcément il n'y en a pas. Au final, vous ne savez pas ce que vous achetez, vous ne savez pas ce que vous portez, mais vous savez par contre où ces vêtements finiront. Chine, c'est 50% des parts de marché aux États-Unis, c'est le cinquième commerce préféré des Français en termes de quantité. Et quand on sait que les industries textiles, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et que 50% des vêtements qui restent dans nos placards sont inutilisés, on a donc dépassé le stade de remplaçable. On doit faire autre chose que consommer. Donc on peut faire notamment de la slow fashion. C'est une autre forme de consommation qui est possible. Plein de choses existent aujourd'hui pour s'habiller, mais Chine, ce n'est absolument pas une solution. Parce que ce n'est pas forcément plus une affaire d'hommes français que d'ours polaires en article ou de zèbres d'Éthiopie, parce que ce n'est pas non plus parce que le moment vous paraît beau et l'achat nécessaire qu'il sera pour l'ouvrier de l'usine, et surtout parce que Chine n'est pas votre allié, ni à vous ni à personne d'ailleurs, à part d'eux-mêmes. Pour l'instant, l'arrivée de la boutique Chine à Angers, initialement prévue pour décembre, a été repoussée, et c'est bien sûr une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais moi je préfère perdre le logo des Galeries Lafayette plutôt qu'un énième case, les lettres qui me regardent d'en haut plutôt qu'un commerçant qui me regarde dans les yeux, ou un lieu dans lequel survit le passé plutôt qu'un espace où la vie a encore beaucoup trop à faire.
Merci beaucoup Mathéo pour cet édito d'actualité qu'on peut retrouver dans l'onglet podcast plus du site.
Oui, toujours. Faut que je le mette à jour, hein, c'est toujours ça le problème, mais voilà, ça sera fait. Pire,
tu passes du temps à écrire tes éditos, donc c'est normal, tu peux pas tout faire en même temps. Merci beaucoup. Je vais pas vous faire réagir, Chine, on en a beaucoup parlé dans cette émission. Je vais plutôt revenir avec nos invités de la soirée, avec dans l'ordre d'apparition Marie-Agnès Dumur-Goulu, directrice de la transition écologique et participation citoyenne à Loire-Authion. Ça tombe bien que ce soit ton intitulé de poste, parce que justement, t'es venu nous parler de la journée Tous Citoyens du 22 novembre. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Marie-Agnès?
Alors, c'est une journée gratuite, ouverte à toutes
les publics enfants, parents, grands-parents, bienvenue. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça se passe de 10h à 17h à l'espace Jeanne de Laval à Andard. Si vous pouvez, venez avec votre casque et votre vélo pour tester nos outils. Et puis, vous pouvez aussi amener votre déjeuner et votre pique-nique. Et on propose de partager un déjeuner avec les partenaires, les élus et les agents de Loire-Authion qui seront présents. Et à 12h15, le verre de l'amitié et le discours du maire, bien sûr.
Et voilà, car le thème, c'est les mobilités, on le rappelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le casque et le gilet jaune. Éventuellement, comme ça, vous pourrez vous initier à d'autres formes de mobilité que la voiture. Le 22 novembre, avec cette journée, tous citoyens. On est tous citoyens et la culture pour tous du 27 au 29 novembre. Didier, c'est toi, on te tend le micro. Je crois que c'est toi qui vas devoir, avec Anne aussi, hein, bien sûr, nous rappeler les informations importantes de cette culture pour tous, de ces trois jours identifiés culturellement pour tout le monde.
Donc c'est 27, 28, 29 novembre. C'est à Loire-Odyssée, à Saint-Mathurin-sur-Loire. C'est trois jours pour réfléchir, pour prendre du plaisir et puis pour partager avec tout le monde.
Voilà, avec cette très belle programmation, notamment l'artiste Sarah Robichon. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Anne, de ton point de vue, ou les informations pratiques? C'est, tu disais, gratuit tout à l'heure, je crois, ou Didier vient de le rappeler.
Tout est gratuit. La première journée est consacrée aux bénévoles et aux professionnels de la culture pour suivre une formation et échanger sur nos différentes pratiques. Et puis le vendredi, audio description avec Morgane Renaud. Le film de François Brault sur la Loire, qui va être magnifique dans le cadre du mois du film documentaire. Et le samedi, le concert dans l'après-midi. Toutes les informations sur loire-odyssée.fr.
Merci beaucoup de nous avoir relayé ces belles actualités, belles initiatives. Non, Michel, rassure-toi, je sais que tu es encore là pour nous parler de cette dernière date, de ce dernier week-end aussi à retenir, les 13 et 14 décembre 2025, bien évidemment, la quatrième édition du Salon des vins et du terroir. Convivialité, encore une fois.
Oui, bien sûr, on vous attend tous les samedis 13 et dimanche 14 décembre. Ça commence à 10h le matin, ça se termine à 21h le samedi soir. D'ailleurs, le samedi soir, vous aurez une animation musicale pour bercer votre repas. Donc, ça pourrait être sympa. Le dimanche, de 10h à 18h. Donc, venez le plus nombreux possible. Et puis, passons du bon temps ensemble. La convivialité avant tout.
Est-ce que, comme pour la journée tous citoyens, il faut venir avec sa baguette, peut-être, son béret, je ne sais pas?
Non, je pense qu'il faut venir avec sa bonne humeur, hein, et puis ses yeux grands ouverts pour visiter la France.
Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas, Michel, on se revoit l'année prochaine, ou peut-être entre temps si tu veux nous partager ton vin favori, tu disais, toi?
Ah, mon vin favori, cette année j'ai un nouveau viticulteur qui vient du Côte-du-Rhône, ça s'appelle le Côte-Rôti, et c'est extrêmement, extrêmement bon.
Et ben le conseil de Michel, avec modération, précisons-le. Merci beaucoup. Au mois prochain, les équipes de Loire-Authion, en tout cas peut-être pas vous, mais d'autres personnes pour les autres sujets qui vont animer le territoire de cette commune. Nous, on se retrouve lundi à partir de 18h10. Prenez soin de vous, passez un bon week-end frais. Il va faire très froid ce week-end. À lundi. Topette.
Mais qu'est-ce que je fous là? Risque tactile et dans mes doigts. La peur se glisse, volant au bout des bras. Toujours en lice, du moins je crois. Oui, je te jure, j'ai vécu comme j'ai aimé à toute allure, sans compter. Oui, je t'assure, j'ai vécu comme je roule droit vers l'amour et vers la foule. Ia, ce moteur au fond de moi ne m'en veut pas. Ia, déjà le ciel dans les ailes qu'on déploie. Ia, cette force qui me dit va vite, viens, comme un refrain. Ia, cette voix qui me dit la prochaine fois ne ferait. Falling out of love, falling right back in it on the nights I had too much. Yeah, trying to break these codes,
Then I text you 3 a.m. I'm psycho, lock me up. Yeah. Didn't think about you at all tonight. Till they play that French song you like. Ilia, Ilia. Sur mon cœur, un fond de moi, des mauvais pas. Ilia, Ilia. Des jaloux, c'est dans les ailes qu'on déploie. Ne freine pas.